Merci Sandrine.
Bonjour. Voilà, alors il y a un an, on m'annonçait que j'avais un cancer du péritoine. Donc là, tout de suite, la première chose, c'est je suis trop jeune pour mourir. Et on apprend très vite à lâcher prise. Et on est obligé de lâcher prise. Donc ça a été tout un parcours d'abandon à Dieu, d'abandon au personnel soignant qui est là, voilà, et on doit se laisser faire. Et c'est pas facile, voilà, c'est pas facile parce qu'on s'accroche. On s'accroche à tout ce qu'on a, à tout ce que... Et non, il faut tout abandonner. Donc voilà un chemin qui a été compliqué. Protocole, 3 mois de chimio, une très lourde chirurgie, 12 heures d'opération, une grosse hospitalisation longue, et après à nouveau de la chimio, tout ça s'est terminé en décembre 2018, avec maintenant un traitement voilà, à suivre. Que vous dire de tout ça? On se sent excessivement démuni, et en fait on est... On est abandonné aux autres. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été très entourée par ma famille, par mes amis, par énormément de personnes qui ont prié pour moi. Et ça a été incroyable et c'est ça ce qui m'a portée. Après, il y a eu les mots que les personnes disent autour de vous. Le médecin, la première fois, l'oncologue qui me dit « on en guérit ». Et on en guérit, eh ben on s'y accroche, on se dit « oui, on va en guérir ». Voilà, c'est des choses comme ça qui vont faire qu'on avance, voilà. J'ai un autre témoignage qui a été pour moi très, très important. C'est après mon opération, donc j'ai passé un peu de temps en réanimation. Et au bout du troisième jour... c'était long, je ne pouvais absolument pas bouger, juste les paupières. J'avais des drains partout, enfin bon, j'étais branchée de tous les côtés. Et là, vraiment, j'ai senti la fragilité de la vie. Je me suis dit, mais je ne vais jamais y arriver. Ce n'est pas possible. Jamais je vais pouvoir retrouver mon autonomie. Jamais je vais pouvoir m'en sortir. Ce n'est pas possible. Et l'aide-soignante qui venait pour ma toilette quotidienne... me voit effondrée en larmes, enfin, vraiment pas bien. Et me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, mais non, mais c'est pas possible, là. C'est l'Everest, je vais pas y arriver. Et elle me dit, vous allez pas y arriver à quoi? Je pourrai jamais être à nouveau debout. Ah bon? Eh bien, on va s'y mettre debout. Et là, dans ma tête, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, elle est folle. C'est pas possible, là, avec tout ce que j'ai partout, là, c'est pas possible. Et je la vois qui dit « machin, 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 on met Madame de Villeneuve debout. » Je me suis dit « mais ils sont tous complètement fous, quoi. » Et j'ai vu, alors évidemment, je ne vous dis pas, ça a été un trafic mais incroyable, de prendre les trucs, de débrancher d'eux, etc. Ils m'ont mis debout, à 5, ils m'ont porté debout. Et peut-être 10 secondes, même pas 10 secondes. Et ils m'ont rebranché, remis. Et ça, je me suis dit, vous voyez, tout seul, c'est pas possible. Mais ensemble, on y arrive. Et ça a été pour moi révélateur de me dire, voilà, toutes ces personnes qui sont autour de moi, tous ces soignants, toutes ces personnes qui m'accompagnent, ma famille, c'est les 6 mondes de sirène qui vont faire qu'ensemble, on va y arriver. Et ça a été vraiment tout le parcours que j'ai vécu. Alors les uns trop loin pour pouvoir m'aider, donc une carte postale, un mot, une prière. Et c'est ça qui a fait que vraiment, je me suis accrochée, je me suis dit, on va y arriver. Et c'est grâce à tout le travail que vous faites. Alors je ne sais pas dans quel... mais moi j'ai trouvé que le personnel soignant était formidable, que les personnes accompagnantes étaient formidables. Et que vraiment, sans ça, ce n'était pas possible de s'en sortir. Alors moi, j'avais de la chance, je n'étais pas seule, j'avais une famille, mais je me dis, les personnes qui sont seules, c'est incroyable, quoi, vraiment. Alors après, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Évidemment, le lever de soleil, on ne le vit pas pareil avant et après. Tous les matins, maintenant, quand je me lève, que je vois le soleil qui brille, que je vois le sourire de mes enfants, une intensité de vie, évidemment, la vie n'a plus la même saveur, n'a plus le même goût. Ma façon, ma vie spirituelle a énormément changé aussi parce que je me suis rendu compte que tout était possible avec Dieu en fait. Tout est possible. La souffrance, le quotidien, quand on s'abandonne, on reçoit tellement, on est tellement porté. La vie est autre. Ce qui était avant de l'ordre de l'intellectuel, tout d'un coup est ancré. Et je pense que aujourd'hui, je ne sais pas si je suis guérie. Il faut 5 ans pour savoir si on est guérie. Mais en tout cas, je sais que ce qui va m'être amené de vivre, je peux le faire. Je peux le faire avec lui et avec mes frères. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous témoigner. Évidemment, la souffrance, c'est quelque chose de très compliqué. Mais ça aussi, je pense que avec Dieu et ses frères, on peut le faire. Voilà.
Qu'il y a peut-être quelques liens à faire. Alors je suis désolé parce que j'ai perdu mon papier sur lequel j'avais pris mes notes. Donc si j'ai mon téléphone, c'est juste parce que du coup j'ai quelques notes dessus et ça va m'aider un petit peu. Donc moi je suis médecin dans un service de réanimation. Donc ici à l'hôpital Fléria à Bourg-en-Bresse. Et donc je suis appelé aujourd'hui à témoigner comme médecin sur la souffrance. Alors, je dois dire que je me sens pas forcément tout à fait compétent dans le domaine, mais plutôt un témoin et éventuellement un compagnon de route. Et ça peut faire écho à votre témoignage. Alors, peut-être par facilité, les docteurs, ils font un peu la différence entre douleur, souffrance, en se disant, la douleur, ça on connaît, on a des traitements, on peut... On sait comment agir, ça ne marche pas toujours parfaitement, parfois il y a des douleurs qui restent difficiles, mais bon, ça je connais un petit peu. Parfois ces douleurs, elles sont usantes, elles sont épuisantes, elles peuvent être même génératrices parfois d'une authentique souffrance. Et puis parfois cette souffrance, elle nous renvoie à d'autres choses qui sont plus morales, qui sont plus difficiles à cerner et qui font en fait écho à tous les pans de notre vie, de la rencontre avec la maladie. Et ça, pour le docteur, c'est vraiment plus difficile parce que c'est pas quelque chose qu'il a appris dans les livres et c'est quelque chose qui le renvoie à son impuissance. Et vous le savez sûrement, mais les docteurs détestent sentir qu'ils peuvent être impuissants. Alors, pour illustrer ça, je vais vous parler d'un patient, c'est ce que m'a demandé Roselyne. Alors on l'appellera Jean-Baptiste. Et donc il avait une maladie de Guillain-Barré. Alors c'est une maladie qui est un peu particulière, qui donne une paralysie. C'est une atteinte des nerfs qui donne une paralysie qui commence par les jambes, puis qui peut toucher tous les nerfs jusqu'à la respiration. Et ça a la particularité d'être réversible, donc de guérir. Même si parfois ça peut laisser des séquelles et tout ça. Mais du coup, une des complications la plus importante et qui peut amener en réanimation, c'est que ça peut empêcher la respiration. Et donc les patients, ils peuvent être endormis, donc intubés avec un respirateur qui les aide à respirer. Et dans cette situation, Jean-Baptiste, il était donc dans cette situation. Alors c'est douloureux, on se sent complètement cloué dans son lit sans pouvoir bouger, on ne peut pas parler parce qu'il y a un tuyau dans la bouche qui permet pas de parler, enfin qui empêche de parler, on ne peut pas écrire parce qu'on a les mains qui ne bougent plus, donc la communication elle devient impossible. ça peut être source de douleur en plus. Et pour lui, le temps devenait long. La solitude, c'est des hospitalisations qui peuvent être très longues, de plusieurs semaines, plusieurs mois. Et la solitude, c'était un poids immense. La longueur des nuits, c'était insupportable. Et puis, certains soins sont devenus insupportables aussi. D'avoir un brassard à tension, ça paraît rien quand on va une fois chez le docteur, mais qui sert toutes les heures, tous les quarts d'heure même parfois. D'avoir une piqûre au bout du doigt pour surveiller le taux de sucre, parfois 6 fois par jour ou plus. Au bout de plusieurs semaines, ça devient douloureux, c'est très douloureux et ça peut devenir insupportable. Les liens familiaux n'étaient pas simples aussi pour lui. Enfin, les seuls temps, donc ça a été, il y a eu un moment vraiment de crise où vraiment cette souffrance, elle était devenue insupportable pour lui. Il voulait que tout s'arrête. Enfin, les seuls temps de répit, c'était la toilette, c'était des massages, des séances de toucher, la douche. Voilà. Alors, quelle attitude a paru ajustée en relisant un peu son expérience? Ça a été finalement de prendre du temps, de l'écouter, de l'observer aussi. Et finalement, c'est ce qui est... c'est comme ça qu'on a trouvé quelques clés pour pouvoir l'aider, pour pouvoir répondre à cette souffrance qui était pas d'un ordre pour laquelle on n'avait pas une réponse simple, immédiate. Mais ça a été voilà, d'essayer de l'écouter, de l'observer, de regarder ce qui était difficile pour lui. Ça veut dire ne pas répondre à sa souffrance aussi immédiatement. Un petit point, je voulais vous reparler aussi, mais voilà, ces gènes, elles étaient liées à tous ces tuyaux qu'il pouvait avoir. Il y a la perte de repères dans le temps, dans l'espace. On ne sait plus quel jour on est, on ne sait plus... si c'est le jour, si c'est la nuit, parce qu'il n'y a pas forcément de fenêtre. Enfin, voilà, tout ça, c'était devenu insupportable. Finalement, ce qu'il a fallu, c'est donc prendre conscience de tous ces points. Je vous les mets tous ensemble, mais bien sûr, ils se sont succédés dans le temps. Et pouvoir y répondre jour après jour. Et donc, pour ça, il faut une certaine disponibilité. Et c'est une des difficultés, je pense, pour les soignants, c'est d'être disponible en temps, mais aussi d'être disponible en esprit et pour pouvoir accueillir la souffrance de l'autre. Et puis en arrière-plan, il faut pouvoir être critique aussi vis-à-vis de nos pratiques, parce que dans la souffrance de Jean-Baptiste, il y avait une certaine somme qui était générée simplement par nos soins, et parfois par des soins qu'on faisait de manière un peu rituelle, et qui n'étaient peut-être pas tout à fait toujours adaptés. Donc qu'est-ce que ça a fait bouger en nous? La première chose, c'est qu'on s'est d'abord senti un peu impuissant face à cette souffrance. Et puis, finalement, ça nous pose la question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Il est dans un état pas possible et j'ai l'impression qu'il est inaccessible. En fait, en prenant le temps, je crois qu'il a compris aussi qu'on était disponible à sa souffrance. Et pour lui, ça a été très rassurant. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il nous a donné des clés et il nous a appelés à devenir créatifs. Et donc... à modifier certaines façons de faire nos soins. Quand on a pris conscience que parfois les rares moments où il arrivait à s'endormir, c'était le moment pile poil où on venait le réveiller. Et voilà, ça vous paraît des choses très bêtes, mais dans nos soins, dans nos surveillances, il a fallu qu'on se repose des questions sur la justification de tout ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait. Et finalement, on a pu l'adapter, le personnaliser avec lui. On a pu faire un peu une sorte de protocole avec parfois des prises de risques avec lui, mais dont il était, pour lesquelles il était, acteur. Et finalement, de l'impliquer, ça nous a fait bouger nous aussi, et on a avancé. Et je pense que c'est là où on est devenu compagnon dans sa prise en charge. Il est devenu acteur et il est devenu co-acteur avec nous de tous ses soins, dont il était extrêmement dépendant. Il ne pouvait pas faire grand-chose par lui-même. Alors, qu'est-ce que l'incidence sur ma vie de foi? Je dois dire que une dimension qui, pour moi, est... Enfin, plusieurs dimensions qui sont importantes, c'est de... La première chose, c'est cette souffrance, elle serait insupportable si j'avais pas en moi-même l'espérance que si j'avais pas en moi-même une espérance très forte. Et je crois que la première chose, c'est que moi, quand je rentre dans la chambre de Jean-Baptiste, je crois profondément que ce qui traverse là est une épreuve extrêmement difficile, mais que d'une part il va aller mieux, et que tous ces soins qu'on va pouvoir lui donner, eh ben, c'est les soins que je vais pouvoir donner à mon frère. Et je crois qu'il y a vraiment cette image de prendre soin de son frère. Une autre chose, c'est d'être finalement très humble et de se dire qu'on est là très peu de temps, que la solitude, c'est vraiment un temps, c'est vraiment une souffrance très importante, et de confier. J'avais entendu une fois à Lourdes cette prière du paillasson, avant de rentrer dans la chambre, d'invoquer l'esprit aussi, de lui dire ben, « rentre avec moi et rends-moi disponible, mais s'il te plaît, reste une fois que moi je vais devoir partir, parce que j'ai cette espérance que, les fruits que moi je vais pouvoir apporter, ils sont petits, mais tu peux les faire durer et tu peux les multiplier. » Donc cette prière du paillasson, voilà, c'est l'image de ce paillasson en rentrant, rentre avec moi et en ressortant, ben, reste un peu plus longtemps que moi. Malgré tout, ça laisse beaucoup de questions sur cette souffrance qui pour moi prend pas vraiment de sens. Hein. Et même si on assiste à des belles délivrances parfois, c'est sûr que ça laisse beaucoup de questions, et encore une fois, je pense que ça nécessite en nous aussi de pouvoir travailler cette espérance pour supporter aussi cette souffrance qu'on vit au quotidien. Je conclue, voilà.
Martine et Jean-Christian, je vous fais une situation rapide, on a 3 enfants, donc Jean-Michel l'aîné qui est handicapé, une fille qui a 2 enfants, qui est toute seule, et une dernière, la petite dernière, qui est infirmière militaire. Jean-Michel, nous on a la chance, par rapport aux 2 témoins d'avant, de vivre ça, mais depuis le début. C'est-à-dire que Jean-Michel a été shunté par le vaccin du BCG à l'âge de ses 1 an. Donc cet accompagnement, c'est un accompagnement qui se fait au fil du temps. Avec des hauts, avec des bas. Les bas sont pas faciles à prendre, les hauts sont formidables. Bon, il est passé d'établissement en établissement. Donc établissement formidable, Villereversure. Villereversure, c'était super. En plus, il a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un enseignement catéchétique là-bas qui lui a permis d'aller jusqu'à sa communion. Enfin, communion solennelle, on appelait ça aussi. Et puis après, on a été obligé de changer parce que, vu l'âge, on ne le gardait plus. Les sapins à Oyonnax, au bout de quelques temps, mais il n'était plus assez productif pour être dans le CAT. Donc je pensais que le centre d'aide par le travail, c'était pas tout à fait ça. Mais c'est pas grave, on en avait vu d'autres. Et on a trouvé un établissement, après avoir cherché, après qu'on nous ait proposé le centre psychothérapique de l'Ain, on a trouvé un établissement qui était Beaupont. Super. Il a passé presque 20 ans. Génial. De la peinture, de la musique, on donnait manger aux animaux. Bien, de l'éveil. Et puis un jour, l'équipe a changé. L'équipe médicale a changé et on l'a retiré de là-bas pour maltraitance médicale le 17 mai 2017. Alors je dis ça personnellement, je n'ai pas fait état de quoi que ce soit, je n'ai pas porté plainte, mais on l'a enlevé de là-bas. On a passé un été merveilleux. On a dit, ben tiens, sensationnel. On a enlevé Jean-Michel au mois de mai, un mois de juillet, un mois d'août, formidable. Il monte, il descend les 2 étages, il s'ouvre la serrure tout seul, il vient me chercher pour aller à la pêche, il vient pour aller se baigner. Oh, ça y est, c'est le Pérou. On avait oublié qu'une seule chose, c'est qu'en septembre, c'est la rentrée des classes. Et dans sa tête à lui, du moment que ses neveux vont en classe, lui, il retourne au centre. Et là, il y a un déclic qui s'est fait, qu'on n'a pas vu arriver. Début des problèmes, hospitalisation, phlébite, embolie pulmonaire. Donc le lendemain, les médecins étaient là et un peu surpris de le voir encore là, puisqu'on ne nous avait pas dit, mais ce n'était pas prévu qu'il reste. Enfin, il y avait une hypothèse qu'il ne soit pas là. Et de là, ben, on l'a ramené à la maison. Et en le ramenant à la maison, on a essayé de mettre en place tout ce qui était nécessaire pour lui. On a essayé, mais tout seul. Parce que les spécialistes cœur médical qui doivent se déplacer à la maison, il n'y en a pas. Les équipes mobiles qui sont sur Oyonnax et qui doivent se déplacer, non, ça ne rentre pas dans nos cordes. Donc on fait avec. Et puis on a heureusement rencontré une neurologue qui, dans la souffrance de la perte de son mari et du père de ses enfants, a dit « Attends, nous, moi je viens là, je m'occupe, je viens. » Elle a réussi à faire hospitaliser Jean-Michel. Alors je vais vite parce que je veux pouvoir répondre au reste. Elle a réussi à faire hospitaliser Jean-Michel et là on a vécu deux choses un peu antinomiques, c'est-à-dire qu'une équipe qui voulait bien recevoir, mais une équipe qui à la limite était incompétente pour recevoir. Parce que là où il était, le handicap, c'est pas quelque chose qu'on accepte. Puis on en a peur. C'est la première fois que je vois un chef de service qui demande « Est-ce que je peux m'approcher de lui ?» Un chef de service qui fait quand même 1m95 pour 120 kilos. Et Jean-Michel, bon, il fait 1m87, 108 kilos, mais il était assis quand même, il ne pouvait pas se lever. Une auscultation de l'oreille, à bras tendu, parce qu'on avait dit qu'il avait mal à l'oreille, à bras tendu, et puis, non, il n'a rien. Puis il est reparti, satisfait, qu'il n'y ait rien à l'oreille. Donc tout ça, c'est pour dire qu'on a rencontré de bonnes et belles personnes, comme vous les avez rencontrées, comme vous l'avez précisé. Et je tire mon chapeau au corps médical quand même, hein. C'est pas parce qu'on tombe sur des gens qui sont pas compétents que... À part que quand l'incompétence fait que la personne est aussi expert auprès des tribunaux, je me pose des questions. Mais ça, je l'ai dit au tribunal concerné. Alors, Jean-Michel, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Michel a passé 16 mois. Il a un...
18.
Pardon?
18.
Arrête de me reprendre. 18. 18. Il a attrapé ce que je pourrais dire la phobie de la marche. Un jour, c'était un dimanche, on était en manger avec les filles, et puis il restait bloqué derrière le fauteuil de la salle à manger. Impossible de marcher, de faire un pas, mais à hurler. Et avec ma fille, celle qui est infirmière, on a réussi à le maltraiter jusqu'au divan, où il est resté donc pratiquement 18 mois, pour dormir, manger, faire ses besoins, sa toilette et tout le reste. Donc c'était assez difficile. Parce que moi, j'ai repris l'habitude, en ancien militaire, de dormir par terre. Mais je vous garantis que le sol est dur, à un certain âge. Avant, c'est bien. Et puis un jour, ma fille qui me dit, mais tu sais pas ce que c'est qu'un babyphone ? Kizako. Mais tu sais, c'est le truc, là, tu restes là, tu le mets à côté, toi, tu vas là-bas et t'entends tout. Ah, génial. J'ai retrouvé mon lit. Ah, c'était génial. Donc Jean-Michel est resté comme ça. Donc seul accompagnement, ça a été cette neurologue qui a accepté de le voir. Et puis... on a un prêtre qui avait été nommé sur Oyonnax quelque temps avant et qui dit « Mais comment se fait-il, Jean-Michel n'a pas été confirmé ?»« Ben non. Ben, ça va pas, ça. » Je sais pas, il est entré en contact avec une certaine Damienne, je crois avec Monseigneur aussi. Entre-temps, on avait un certain Stéphane qui était à la cure d'Oyonnax. Et puis, je sais pas, ils ont monté un truc. Et c'était un accompagnement pour aller jusqu'à la confirmation. Alors, il y avait tout un groupe de confirmation, donc pour il y a un mois et demi. Et donc, la confirmation de tout le monde s'est faite le samedi soir. Et Jean-Mi, donc, n'a pas pu y aller. Alors, le père évêque a dit, « Oh, ben, c'est pas difficile. Laurent, je couche ici. Demain, je fais les fiançailles le matin. Je dis la messe avec toi après. Et puis après, ben, on va chez Jean-Mi. » Donc, on a eu le plaisir d'avoir Monseigneur qui vient à la maison. Avec tous les confirmants de la veille, du groupe de Jean-Michel, qui ont tenu à être là avec lui, à venir l'entourer. C'est formidable. Et donc, il y a eu la confirmation. Et à la fin de la petite cérémonie qui avait lieu là, j'ai dit à tout le monde, écoutez, on va boire l'apéro sur la terrasse. Et puis Jean-Michel s'est levé, il a dit, moi aussi, aussi. Et Jean-Michel a fait ses 6 premiers pas pour aller jusqu'à sur la terrasse, boire l'apéro avec tout le monde. Donc je pense que l'Esprit Saint a fait son œuvre, que tous les gens qui ont prié pour lui, Et là, je te retrouve. C'est-à-dire que, où que l'on puisse se trouver, la prière des autres est quelque chose qui est formidable. Et nous savons que jusqu'en Haïti, il y a une congrégation religieuse, plus le prêtre qui s'occupe de la congrégation religieuse, qui était à Ars à une certaine époque, James, pour ne pas le nommer. Je sais qu'il prie pour eux. Je sais que les petites sœurs de cuir ont prié pour elle. Je sais que l'Ordre de Malte-France a prié pour lui. Je sais que plein de personnes, même que je ne connais pas, ont prié pour lui. Et ça, c'est... Quand on y pense le soir tout seul, dans une journée encore... Je ne veux pas être grossier. Une journée, on se dit, mais attends, mais... Tu te rends compte un petit peu, tous ceux qui prient derrière, tout ça. Et puis là, ça remue un petit peu, parce qu'on se dit, eh bien, et toi, au fait, là, tu fais quoi? Ta petite prière, là, il ne faudrait peut-être pas la changer pour voir les choses autrement, puis demander peut-être autre chose pour être bien demain avec Jean-Mi. L'accompagnement avec Jean-Mi, donc ça a été la catéchèse. Ça a été le fait que tous les dimanches, on lui ramenait la communion. Alors, c'était Martine qui en était chargée. Parce que comme moi, j'allais à la messe le samedi soir, elle était de permanence à la maison. Et le dimanche, c'est moi qui étais de permanence à la maison et c'est elle qui allait à la messe. Donc elle ramenait la communion à Jean-Mi. Et le dimanche, avec Jean-Mi, on regardait la messe à la télé. Il adore ça. D'ailleurs, s'il y a des prêtres qui veulent un jour quelqu'un comme souffleur, il connaît tout ce qui se dit, la partition du prêtre, il la connaît par cœur. Ça, il n'y a pas de souci. Il ne rentrera pas au séminaire, malheureusement, mais bon. Quoi vous en dire qu'on a vécu des moments très, très, très pénibles. Parce que quand on se sent abandonné, là, on est vraiment abandonné parce qu'il n'y a personne qui vient. Puis on avait notre généraliste qui était là, qui venait, mais qui me disait, mais Jean-Christian, je suis désolé, je vais téléphoner à un tel ou un tel, mais ce n'est pas dans mes compétences, ça. Je ne voudrais pas faire une bêtise, j'allais dire autre chose. Parce que là où je l'avais enlevé pour maltraitance médicale, c'est que le psychiatre s'amusait à faire des changements de médicaments. Et quand ma fille infirmière me disait, mais papa, ça va pas ensemble. Elle se mêlait un peu de ce qu'il la regardait pas, mais bon, ça la regardait puisque c'était son frère. Et puis effectivement, ça allait pas ensemble. Ah, mais vous inquiétez pas, c'est une erreur, je vais changer. Ça laisse un peu pantois. Et là, je te rejoins aussi, c'est que quand on a la chance de pouvoir réfléchir avec l'enfant ou la personne qui est là en souffrance avec nous, on a une énorme chance. Parce que je vois là, dans l'établissement où il y avait Jean-Michel, il y a des gens qui sont vieillissants, enfin vieillissants, qui ont que 45-50 ans. Donc c'est encore pas vieux. Mais ils n'ont plus de famille. C'est des milieux de ruraux, il n'y a plus de famille. Il y a un frère ou une sœur, mais qui ne sont pas venus depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils savent plus ce que c'est, leur famille. Donc qui c'est qui va les aider à ces gens-là? Personne. Et puis après, il y a les gens qui ont malheureusement pas suffisamment de réactivité pour pouvoir se dire, mais là, ça va pas, et qui laissent faire les choses. Et on peut récupérer carrément des légumes. Et ça, quelque part, c'est pas normal. Donc nous, on a eu une énorme chance. On a eu la chance de le suivre depuis très longtemps. Donc pour nous, c'est devenu, je dirais, pas une normalité, mais une façon de vivre. Parce qu'à côté de ça, Jean-Michel a été champion de France de ski de fond, champion de France de cross-country. Donc on a eu des satisfactions que peut-être beaucoup parmi vous n'ont jamais eues. Mais ça, on ne les changerait pas contre tout un empire. Ça n'a pas de prix, ça. Il faut finir. Alors, vous dire quoi? Eh bien, que c'est fini. Je vous remercie de nous avoir accueillis. Et puis, si vous avez des questions à poser, vous pouvez... Attendez, elle veut poser.
Je voudrais quand même rajouter que depuis 4 dimanches, Jean-Michel se déplace avec nous et qu'on est à la messe avec lui, tous ensemble.
Avec des paroissiens qui sont très heureux de le revoir. Ah, mais il est là.